Philippe Allienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et président du Club de la presse des Hauts-de-France. Alors peut-être pour nos auditeurs, nos auditrices qui ne connaissent pas cette association, cette structure, le Club de la presse Hauts-de-France, c'est quoi alors ?
C'est une association de journalistes et de professionnels de la communication qui a été créée il y a une trentaine d'années. Qui permet aux professionnels de se rencontrer, d'échanger, de débattre.
Donc avec des tables rondes, des échanges autour de sujets qui concernent les journalistes, à la fois un espace de réflexion sur l'information, c'est ça ?
C'est cela, et ça va même jusqu'au colloque. Nous ne sommes pas ennemis du colloque, comme disait Raymond Devos.
C'est aussi un espace pour peut-être des gens qui cherchent du travail. Ça a aussi ce rôle-là, le Club de la presse,
hein. Oui, c'est ça ce rôle-là. Alors, nous ne sommes pas une agence pour l'emploi, ce serait vraiment pas possible. Mais comme c'est un lieu d'échange, forcément, nous recueillons des opportunités, des offres d'emploi ou des demandes. Nous les publions sur notre site internet. Voilà, c'est très facile à trouver. Et sinon, les gens peuvent venir quand ils veulent au siège du club. Et c'est la force de l'habitude qui fait que on se crée du réseau. Et effectivement, il y a des personnes qui réussissent à trouver un emploi par ce biais-là.
Alors je reviens sur cet espace de réflexion. Est-ce que c'est réservé aux journalistes ou est-ce que c'est aussi ouvert aux citoyens, aux citoyennes qui souhaitent aussi réfléchir sur l'information ?
Non, ça n'est pas réservé qu'aux journalistes qui n'ont jamais le temps de toute façon. Non, quand nous faisons des réflexions sur la profession, évidemment, ça va être restreint si c'est très technique. Donc ça ne concernera que des journalistes ou que des communicants. Mais quand nous faisons, je parlais de colloque tout à l'heure, je ne plaisantais pas, nous en avons fait un cette année, en mars, sur ce que sont devenues les ordonnances de 1944, 80 ans après. Ça s'est fait sur toute une journée à l'école de journalisme, à l'ISFJ, l'école supérieure de formation en journalisme à Lille. Et c'était ouvert au public. Nous avons fait salle comble. Et là, nous allons en faire deux autres au même endroit. L'un qui sera consacré à l'environnement, comment on traite l'environnement dans la presse. Comment on intéresse les jeunes aussi. Et puis le deuxième, ce sera encore une fois sur la presse. Ce sera, si ça se fait, ce sera à Valenciennes, à l'université de Valenciennes, où nous allons parler des résultats, des préconisations des états généraux de la formation qui se sont tenus jusqu'à récemment.
Alors aujourd'hui, Philippe Allienne, vous êtes à Arras, à l'invitation de l'association Les Amis de Robespierre, pour y tenir une conférence. Alors, une conférence qui va nous ramener, vous parlez tout à l'heure de 1944, là c'est encore plus loin, à 1789, ou autour de 1789, donc la Révolution française, et notamment donc, dans la Déclaration des droits de l'homme, il était déjà question à l'époque de la liberté de la presse, c'est l'article 11.
C'est le premier pilier, enfin, c'est le premier qui a été déposé. Je vais vous le lire, en tout cas en lire un extrait. C'est très simple. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'était une des premières lois sur la presse, c'était même la première.
Oui, parce qu'il faut se remettre un peu dans le contexte, on est à la naissance de la presse écrite, les journaux. Est-ce que justement vous pouvez nous rappeler
un peu ? Non, la presse écrite existait déjà, simplement elle n'était pas libre. Et justement, Robespierre en a parlé dans une conférence qu'il a donnée en 1791, où il dit que il faut être à fond. Alors, ce ne sont pas ces termes, excusez-moi. Je ne sais pas comment il causerait aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui s'exprimait très bien. C'était un avocat. Il faut être à fond pour la liberté de la presse. Il n'y a aucune exception, sauf celle que j'ai citée tout à l'heure. Pas de diffamation, pas de... il ne faut pas s'attaquer aux gens. Mais sinon, la liberté doit être totale, aussi bien pour la presse écrite que pour la parole orale. Jusqu'à présent, il y avait des journaux. Ça remontait très loin, mais c'était l'affaire de quelques numéros on ne pouvait pas dire ce que l'on voulait. Et Robespierre disait, une presse qui n'est pas libre, c'est une presse qui sert les gens les plus puissants. les gens qui veulent vraiment dominer les autres. Je cherche le terme qu'il utilisait, ça me reviendra. Et ça n'est pas bien. Mais plus de 200 ans plus tard, on s'aperçoit que il avait raison, mais ça existe.
Alors justement, ce qui est intéressant dans cette approche historique, c'est qu'on voit que à ce moment-là, déjà, les gens avaient identifié qu'il y avait cet intérêt, cette importance de la liberté de la presse dans la démarche de démocratie. Comment est-ce que cette déclaration résonne aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une certaine liberté de presse, bien sûr, mais il y a aussi d'autres problèmes qui se posent dans...
Il y a eu d'autres lois en 200 ans, on imagine. Il y a eu notamment la loi de 1881 qui reste la loi pivot pour la liberté de la presse. On en parle beaucoup en ce moment pour autre chose. Hein. C'est les dispositions qu'a demandé un parti politique d'opposition concernant la loi sur le terrorisme. Et la loi de 1881 suffit déjà à protéger contre cela. Elle a été évidemment complètement abandonné pendant l'occupation allemande, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les principes en ont été repris. Elle a été rétablie, bien évidemment, à partir de 1944, justement, avec les ordonnances des résistants, les ordonnances relatives à la liberté de la presse. Et ces ordonnances souhaitaient que la presse soit complètement indépendante des pouvoirs politiques et économiques, donc de l'argent. C'est bien ce qui avait posé problème avant la guerre. Et aussi qu'elle voulait lutter contre les concentrations de presse, c'est-à-dire qu'une seule personne ne puisse posséder plusieurs journaux. Et ça, c'était il y a 80 ans, c'était complètement oublié, ou volontairement bien évidemment, puisque la presse, une bonne partie de la presse, les grands journaux, sont aux mains d'une dizaine de milliardaires. On les connaît, je ne vais pas tous les citer, on connaît les principaux, Bolloré, Arnault, Sade, etc.
Alors justement, ouais, depuis, il y a eu quand même la crise des médias, notamment de presse écrite. Il y a eu une encore plus forte concentration des médias aux mains des milliardaires et de grands groupes. Il y a aussi un phénomène relativement nouveau en France, c'est une forme d'extrême droitisation d'une partie du spectre médiatique. Comment vous voyez ça? Et puis aussi au regard cet article 11 dans la Déclaration des droits de l'homme.
Je crois que de toute façon, l'article 11, il ne faut surtout pas le perdre de vue, il faut l'appliquer. Concernant l'extrême droitisation, vous pensez à des chaînes de télévision, j'imagine, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la presse écrite. On a vu ce qui s'est passé récemment, c'était il y a quelques mois, il n'y a pas tout à fait un an, je ne sais plus la date, quand le journal du dimanche a remplacé son rédacteur en chef par un autre journaliste qui venait de Valeurs Actuelles, et M. Lejeune, dont les idées sont très clairement affirmées à l'extrême droite. Donc effectivement, on va vers ce genre. Et évidemment, ça a provoqué une grève d'un mois, c'est gigantesque, de la rédaction, et ces journalistes qui étaient au JDD sont quasiment tous partis, parce qu'ils ont eu beau faire grève, vous n'êtes pas content, partez. Et M. Lejeune a pris la place, effectivement. Et on trouve ensuite, là c'est plus délicat, on trouve ça aussi sur les chaînes de télévision. Vous savez que l'ARCOM ne veut pas rendre l'agrément à deux chaînes, C8 et puis Énergie, parce que c'est pas pour des raisons politiques. On leur reproche de ne pas pratiquer le pluralisme interne, c'est-à-dire d'avoir des débats où tout le monde penche du même côté. Quand on entend des gens comme Cyril Hanouna, moi je n'ai rien contre le personnage, mais quand on entend des gens comme Cyril Hanouna, on a quand même du mal. On sait très bien que c'est un ami d'abord de Bolloré. Bolloré, on sait très bien vers où il penche. La droite extrême, l'extrême droite. Et quand on entend la manière dont il fait ses émissions et dont ensuite il va faire la même chose à Europe 1, même groupe, Bolloré, effectivement, il y a de quoi se poser des questions, c'est dangereux. Et quand on voit sur CNews que Pascal Praud fait exactement la même chose avec son équipe, quelquefois, il y a des gens qui passent d'une équipe à l'autre dans la même journée, je ne sais pas comment ils font dans l'emploi du temps, mais... et c'est toujours... On donne toujours la préférence, effectivement, à un discours très, très, très à droite, pour ne pas dire à l'extrême droite. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas pour interdire. Mais je suis pour que l'on débatte et qu'en face, il y ait une presse indépendante plus forte.
Dernière question, peut-être. On peut se demander pourquoi finalement les équipes de ces médias, les journalistes, tout ça ne réagissent pas. Et puis, il y a aussi la question de la formation, parce qu'on a vu récemment que Bolloré, mais d'autres milliardaires ont racheté une école, oui. Une école de formation.
L'école supérieure de journalisme de Paris, surtout oui. Pas celle de Lille, oui. qui se dit la plus ancienne, ça me paraît difficile. Celle de Lille, c'est la première, elle a été créée en 1924. Cette école de Paris n'est pas habilitée par la profession, il faut le savoir. Elle a été rachetée par plusieurs de ces milliardaires dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est quoi leur intérêt ? C'est simplement de former des journalistes qui vont aller dans leur sens, c'est-à-dire le libéralisme économique absolu. Mais on entend déjà ce discours sur les chaînes que j'ai citées tout à l'heure. Et tout va toujours dans le même sens. Le danger, il est, donc ils auront leur propre école. Et ça, c'est assez... Il y a de quoi avoir peur, effectivement. Il y a d'autres écoles, fort heureusement. Moi, j'ai confiance aux jeunes journalistes. On ne fait pas ce métier pour gagner beaucoup d'argent, c'est très rare, à moins d'être présentateur vedette, mais c'est autre chose. La plupart des jeunes que moi j'ai l'occasion de rencontrer, ici à Lille, quelle que soit l'école, il y a au moins deux écoles, même trois, ce sont des jeunes qui croient à ce métier, qui croient à la déontologie de la presse, qui croient à l'information et qui sont persuadés que la presse est un des piliers essentiels de notre système démocratique, donc de la démocratie, donc de notre liberté. La liberté de la presse, c'est la liberté tout court. Si on y touche, on touche à nos libertés.
Philippe Allienne, journaliste et président du Club de la presse des Hauts-de-France, il était de passage par Arras la semaine dernière. Invité par l'assaut Les Amis de Robespierre, le thème de la conférence était « La liberté de la presse en France, de la Déclaration des droits de l'homme aux États généraux de l'information ».